RFI.
Il est 9h à Paris et vous écoutez RFI, 11h à Damas. Un nouveau journal avec Grégoire Morelli.
On va démarrer cette édition en Syrie, où les vols internationaux vont reprendre ce mardi. Il s'agit pour l'instant des liaisons qui avaient été suspendues au moment de la chute du régime Assad. Mais qu'en est-il des liaisons totalement interrompues ces dernières années dans le pays? On fait le point dès le début de ce journal. Et puis, trois semaines après le passage du cyclone Chido, la mobilisation se poursuit en métropole pour venir en aide aux sinistrés. Et pour ce faire, une importante logistique se met en place. C'est ce que nous expliquera un membre d'une ONG d'ici quelques minutes. Enfin, en France, vieillir en bonne santé, oui, mais pendant combien de temps? Une étude du ministère de la Santé rapporte que l'espérance de vie sans incapacité augmente dans le pays. Quelques retraités nous donneront le secret de leur longévité en fin de journal. À chaque jour, son lot d'annonces en Syrie. On apprend que les vols internationaux reprendront ce mardi au départ et à destination de l'aéroport de Damas, la capitale. Il s'agit pour l'instant des liaisons qui avaient été suspendues en décembre dernier au moment de la fuite de Bachar al-Assad. Mais qu'en est-il donc de ces liaisons totalement interrompues ces dernières années alors que la Syrie était isolée sur la scène internationale? Élément de réponse donc avec Nicolas Falaise.
Ces dernières années, les vols internationaux étaient rares sur l'aéroport de Damas, capitale d'un état paria. Le changement de pouvoir en Syrie se traduira-t-il par une relance du trafic aérien commercial? La première condition est celle de la sécurité, nous dit Jean Serra, ancien pilote de ligne, aujourd'hui consultant sur les questions aéronautiques.
Avec le nouveau gouvernement qui est en place, si les États européens estiment que ce n'est plus un territoire dangereux, ils peuvent dire, bon, ben, pour nos compagnies, l'espace aérien syrien est à nouveau ouvert.
Vient ensuite le processus d'autorisation des liaisons aériennes. Jean Serra.
Il faut qu'il y ait un accord déjà entre les deux pays. Pas des compagnies aériennes, je parle bien de deux pays qui acceptent qu'il y ait, par exemple, un droit de trafic pour aller de la Syrie vers un pays d'Europe et que ce même pays d'Europe obtienne en échange un droit de trafic pour aller de ce pays européen vers la Syrie.
Et après cette étape, les compagnies et les aéroports doivent encore négocier leurs accords commerciaux. Qatar Airways a déjà annoncé la reprise prochaine de ses vols vers la Syrie après 13 ans d'interruption. Pour l'instant, ce sont surtout des avions chargés d'aide internationale qui se posent sur l'aéroport de Damas.
Le Proche-Orient, c'est aussi ces négociations indirectes qui ont repris entre le Hamas et Israël. La formation islamique a indiqué que les discussions porteraient notamment sur une cessation complète des hostilités et le retrait des troupes israéliennes du territoire palestinien. Côté israélien, aucun détail sur ce nouveau round de pourparlers, alors que des rassemblements étaient organisés hier soir dans plusieurs villes du pays pour presser le gouvernement d'obtenir au plus vite la libération des otages. L'actualité dans l'enclave, c'est aussi ces 5 Palestiniens tués et plusieurs autres blessés dans une attaque israélienne contre le camp de réfugiés de Jabalia. À savoir également qu'au Yémen, la chaîne de télévision Al-Masira, affiliée aux Houthis, a rapporté 3 attaques menées par des troupes américaines et britanniques dans le nord-ouest du pays. Israël annonce pour sa part avoir intercepté un missile envoyé en provenance du Yémen avant qu'il ne puisse pénétrer sur le territoire israélien. L'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia, qui revendique sa victoire lors de la présidentielle de juillet 2024, a été reçu hier à Buenos Aires par le président argentin Javier Milei. Première étape d'une tournée latino-américaine pour l'opposant qui doit ensuite se rendre en Uruguay, au Panama et en République dominicaine. Edmundo González Urrutia a également promis de revenir dans son pays pour prendre ses fonctions le 10 janvier. On reste sur le continent américain où l'ancien président Jimmy Carter, décédé à l'âge de 100 ans, a entamé son dernier voyage dans son état natal de Géorgie où il jouissait d'une forte popularité. Les Américains qui le souhaitent peuvent aller se recueillir sur son cercueil jusqu'à mardi. Presque 3 semaines après le passage du cyclone Chido à Mayotte, la chef de file des députés du Rassemblement National, Marine Le Pen, se rend sur l'archipel aujourd'hui, un territoire qui a voté massivement pour son parti ces dernières années, tous scrutins électoraux confondus. Dans le même temps, je vous le disais, la mobilisation pour venir en aide aux sinistrés continue à s'organiser en métropole. À la Bourse du Travail de Saint-Denis et dans le nord de Paris, l'ONG Outre-mer Solidarité Catastrophe Mayotte collecte différents dons qui vont être acheminés par fret maritime du Havre au port de Longoni à Mayotte, ainsi que par vols commerciaux, ces vols qui ont repris. Et c'est toute une logistique à mettre en place jusqu'à la distribution de ces denrées, comme nous l'explique Siti Malaki, membre de cette ONG.
Le flux aérien commercial est ouvert
va travailler sur cette possibilité de faire partir vraiment les plus urgents des urgents, qui est l'eau. On est en relation permanente avec le conseil départemental de Mayotte et aussi avec les associations locales, parce que les associations locales connaissent aussi où sont les personnes, parce qu'on parle beaucoup de personnes en situation illégale, même ceux-là ont les secours aussi. Parce qu'on parle des vies humaines. C'est vrai qu'il y a des endroits vraiment enclavés. Les routes ne sont pas déblayées. Ils sont jauchés des arbres déracinés par le cyclone. Donc, elles vont quand même apporter les repas à pied. Et nous, on compte vraiment sur l'appui des associations locales.
Siti Malaki, membre de l'ONG Outre-mer Solidarité Catastrophe Mayotte. Des propos recueillis par Sylvie Coffi. En Éthiopie, plusieurs milliers de personnes sont en cours d'évacuation après une série de secousses sismiques dans les régions d'Afar, Oromia et Amara. Cette zone est parcourue depuis des mois par des tremblements de terre répétés qui ont pu être ressentis jusqu'à la capitale éthiopienne, Addis Abeba, située pourtant à plus de 200 km. Les précisions avec Lisa Fabian.
Depuis le mois de septembre, au moins 67 tremblements de terre ont été enregistrés autour de la région d'Awash-Fantale, en plein cœur du rift éthiopien où l'activité sismique est l'une des plus intenses au monde. Mohamed Hussein est à la tête de la commission de gestion des risques et des catastrophes en région Afar.
Ces phénomènes inquiètent de plus en plus les gens car la force des secousses ne fait qu'augmenter. Pour nous, la situation est alarmante et nous appelons les habitants à la prudence.
L'entrée en activité d'un volcan vendredi soir a fait monter l'inquiétude dans la région. Le cratère du Mont Dauphin a craché pendant quelques heures un mélange de gaz, de pierre et de terre à forte pression. Environ 2000 personnes ont déjà trouvé refuge dans les abris ouverts par les autorités éthiopiennes, alors que des experts ont été déployés dans la zone pour évaluer les dégâts.
Les gens étaient plutôt réticents à l'idée de quitter leur village, mais certaines maisons se sont effondrées, des écoles, des centres de santé ont aussi été endommagés. Donc nous regroupons les personnes affectées dans des logements temporaires dans la ville d'Awash et aux alentours.
Jusqu'à 80 000 personnes pourraient être affectées par ces activités sismiques et volcaniques accrues, selon un communiqué des autorités éthiopiennes.
Lisa Fabian, un navire cette fois dont la cargaison inquiète mouille au large de la Côte d'Ivoire. Le bâtiment transporte du nitrate d'ammonium, une substance hautement inflammable. C'est elle, cette substance, qui avait été à l'origine de l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Et ce bateau contient 7 fois le volume de nitrate d'ammonium qui avait endeuillé le pays du Cèdre. Le cargo pourrait même être victime d'avaries. En conséquence, son accès au port autonome d'Abidjan a été interdit jusqu'à nouvel ordre. Une réunion d'urgence est prévue ce lundi pour, je cite, un examen approfondi du sujet. Direction la France, où selon une étude du ministère de la Santé publiée le 31 décembre dernier, l'espérance de vie sans incapacité augmente. Pour les femmes, elle est de 77 ans, 75 pour les hommes, même si ces années sans incapacité ne sont pas toujours vécues en bonne santé, souligne l'étude. Aram Beng a rencontré des retraités de 70 ans et plus qui lui ont livré leurs secrets pour rester en forme.
Malgré le froid en ce premier jour de l'année, il y a du monde dans ce club de pétanque du 15e arrondissement de Paris.
Bonne année, meilleurs vœux, santé, voilà. Surtout la santé.
Ils sont une dizaine à se souhaiter, surtout une bonne santé. Mais comment s'y prennent-ils pour vieillir sans incapacité?
Il faut rester actif.
Adrien, 70 ans, qui a un paradis de moins.
Il faut sortir, quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il vente, il faut toujours sortir. Il faut pratiquer un sport, il faut bouger, il faut marcher, jouer à la pétanque. Si on ne bouge pas, on est mort.
Rémi, un autre septuagénaire, pratique en plus de la pétanque, un sport doux, plus adapté à son âge.
C'est l'aquagym.
Et vous y allez combien de fois par semaine?
2-3 fois. Mais avant, j'y allais tous les jours. C'est payant les cours d'aquagym. Hein. C'est 10 euros hein, la séance.
Et ils sont tous unanimes. Les sports les plus adaptés aux personnes âgées devraient être, selon eux, gratuits. Une des rares femmes présentes au club de pétanque, France, 78 ans.
Comme je fais beaucoup de sport, évidemment, ça se passe beaucoup mieux que si je n'en faisais pas. Ça me permet de garder la ligne, d'avoir des muscles, d'avoir une bonne densité osseuse, etc. Et je continue à jouer à la pétanque et je suis toujours en activité, quoi. Je bouge tout le temps. C'est ça mon secret, oui.
En France, les femmes peuvent espérer vivre encore 12 ans en bonne santé après 65 ans et les hommes, 10 ans et demi.
Aram Beng. La France, toujours pour terminer cette édition où on a appris hier samedi la mort de Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation nationale entre 1997 et 2000. Son passage rue de Grenelle avait été marqué notamment par une formulation peut-être peu orthodoxe où il promettait de dégraisser le mammouth de l'Éducation nationale. Une phrase jamais prononcée publiquement, issue d'un off avec un journaliste. Mais c'est ce qui est resté, regrette son fils qui a annoncé le décès de l'ancien ministre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous le savez, d'ici là, l'information continue en tout temps, en tout lieu. sur notre site rfi.fr et sur notre application Pure Radio. Bonne suite de programme à l'écoute de la Radio du Monde.